Pigeot Immobilier, la française immobilière, Habitants, Rennes Parc Expo, le groupe Pigeot, des métiers multiples, un acteur unique. Le groupe Pigeot, partenaire officiel des Rouges et Noirs.
Coup d'envoi de votre programme avec Pascal Menuiserie. Fenêtres, portes et volets dans vos salles d'exposition à Rennes et Vitré.
Madame, Monsieur, bonjour, soyez les bienvenus sur le plateau de Pleine Lucarne pour cette nouvelle année. On vous présente évidemment tous nos voeux, Bleu Aves Mat, comme on dit en Bretagne. On vous souhaite beaucoup de choses, on vous souhaite beaucoup d'émotions, notamment en suivant, pourquoi pas, l'équipe de Julien Stéphane. Vous savez que tous les lundis, cette émission, en collaboration avec Ouest France, revient sur le match qui a précédé, le match du Stade Rennais, et ce, pendant 45 minutes. Et donc, pour parler du match et de la qualification en 16e de finale de Coupe de France après le succès à Guingamp, eh bien, nous sommes en compagnie de Christophe Penven de TVR pour cette nouvelle année. Salut Christophe.
Salut Vincent.
On est avec Pierre Lecomte de l'Académie du même nom. Salut Pierre.
Salut Vincent.
Nous sommes aussi avec Clément Gavard, journaliste à SRO, mais surtout à SoFoot. Salut Clément.
Salut Vincent. SRO pour encore 2 semaines.
Oui, et parce que c'est le retour très attendu de Thomas Rasouli, leader du concours de pronostics.
Voilà.
Comme quoi, on peut être à des milliers de kilomètres et mieux comprendre le Stade Rennais que ceux qui ont les mains dans la gadoue tous les jours.
Pas sûr.
À l'image, d'ailleurs, de Guillaume Lenné de Ouest France. Salut Guillaume.
Salut Vincent, salut tout le monde.
Et ben, merci d'être là, malgré un état fébrile qui ne vous cache, qui ne vous quitte pas pendant les fêtes.
C'est terrible.
C'est terrible, mais, ouais, mais vous êtes là parce que vous êtes un professionnel.
Exactement, jusqu'au voilà. Bout, on est prêt à mourir pour le Stade Rennais. Enfin, peut-être pas quand même. Mais
et pour Pleine Lucarne.
Et pour Pleine Lucarne, surtout. Surtout.
On va parler du mercato aussi, parce que je sais que vous êtes nombreux à attendre peut-être des nouvelles. On vous dira ce qu'on sait pour l'instant, et on ne sait pas toujours énormément de choses. C'est lent à démarrer côté Rennais, mais on va tout de suite revenir sur le match d'hier après-midi au stade de Roudourou, où Rennes affrontait l'en avant de Guingamp. Regardez. C'était à guichet fermé et c'était Monsieur Brizard qui était l'arbitre. Et dès le début du match, il y a une tête dans la surface de réparation, juste devant la surface de réparation. Et le gardien rennais, Gallon, préfère assurer. Bon ballon de théâtre pour Désiré Doué. Ce n'est pas cadré. Ça ne va pas l'être non plus sur ce débordement de Guéladoué pour son frère. Reprise pratiquement au point de pénalty. On va voir au ralenti que ça ne passe pas très loin. Les Rennais ne sont pas vraiment inquiétés, mais ils ne sont pas non plus sereins jusqu'à la 44e minute avec la théâtre pour Truffert. Un bon travail de Truffert sur le flanc gauche, un centre parfait, bon déplacement de Kalimuendo qui de la tête, et c'est assez rare pour être signalé, marque le premier but de la rencontre. Un appel contre appel de Kalimuendo qui est payant, et juste avant la mi-temps, les Rennais mènent 1-0. Ils vont même, alors qu'ils vont avoir une petite peur en début de deuxième période, mais doubler la mise. Très bon travail d'Enzo Lefebvre qui sort le ballon, qui joue dans la profondeur. Là encore, une fois n'est pas coutume pour Kalimuendo, piqué devant Basilio. On joue depuis moins d'une heure, 2-0, et on se dit que c'est plié. Et effectivement, ça va l'être, mais on voit le bon travail, très bon travail d'Enzo Lefebvre, la bonne course de Kalimuendo, un buteur pour Pierre Lecomte. Et presque un 3-0 avec cette frappe de Terrier qui passe à ras du poteau gauche de Basilio. On le voit sous cet angle-là. C'est vraiment tout près. Rennes qui va un peu plus souffrir quand même en fin de match. Ce même Terrier qui perd un ballon là, juste à l'entrée de sa surface de réparation. Et derrière, le petit Picard qui va mettre une balle qui va être détournée par Omari. Heureusement qu'il était là, d'ailleurs, ou Ahmed Omari, sur cette action du moins. Parce que autrement, ça rentrait dans le but. Et puis, il y aura une dernière frayeur avec cette balle sur laquelle Gallon va devoir s'employer. Mais au bout du compte, Rennes est solidaire. Rennes ne souffre pas trop. Et Rennes s'impose assez logiquement et se qualifie pour les 16e de finale de la Coupe de France. Alors, soyez bien convaincus qu'au moment où nous enregistrons cette émission, le tirage au sort des 16e n'a pas eu lieu, donc on ne va pas en parler. On a tous nos petites idées sur ce que ça pourrait donner. On verra demain si...
À Monaco.
Vous dites Monaco, ce sera Monaco à Monaco.
Moi, je dis Marseille.
Ça sera Marseille à Marseille, Laval à Laval.
Saint-Priest, non, ils sont encore là. Non, je...
Pierre. Ah, bah, moi je dis Laval, parce que j'ai un petit faible pour cette
équipe. D'accord, bah, on va voir si on a raison. Vous le savez déjà en nous regardant, mais nous, on ne le sait pas. On revient donc sur ce match entre Guingamp et Rennes. Rennes a enterré ses vieux démons. Vous avez écrit ça hier soir. Si vous l'avez écrit.
Non, j'ai dit qu'ils ont ils n'ont pas été gagnés par leurs vieux démons.
Oui. Différent. Oui. Ouais, d'accord. Ok.
C'est pas un 32e qui va effacer les deux finales perdues, mais en tout cas, oui, ils n'ont pas laissé la place aux vieux démons, aux mauvais souvenirs. Ils ont respecté la hiérarchie contre une équipe de Ligue 2 qui était plus faible. Rennes était plus fort que Guingamp. Ils ont été assez efficaces. Ils ont fait le boulot comme il faut le faire en Coupe de France.
Est-ce que on n'a pas tous, enfin tous, c'est pas vrai, moi surtout le premier, mais peut-être, est-ce qu'on ne s'est pas fait trop une montagne de cette équipe de Guingamp finalement quand on voit ce qu'elle a proposé hier, Pierre?
Ah, les derbys Guingamp-Rennes, ou Rennes-Guingamp même, mais surtout Guingamp-Rennes, c'est toujours très difficile à négocier pour un tas de raisons. Bon, j'ai vu que la première mi-temps était relativement équilibrée. Je commençais à me dire, Rennes ne marque pas, ils ont marqué à la fin de la première mi-temps, on va refaire encore la mauvaise histoire. Et finalement, non.
L'histoire de la finale.
Bah oui, par exemple, mais bon, même en remontant plus loin, Guingamp a toujours posé beaucoup de problèmes à Rennes. Et là, j'ai vu qu'en deuxième mi-temps, par contre, ça va. Ça se passait bien. J'étais rassuré. Et puis, finalement, la victoire est méritée.
Et c'est comme Julien Stéphane qui trouve que Rennes a fait un très bon début de deuxième mi-temps. On parle de Stéphane et d'un retour à quatre défenseurs. Pourquoi donc? Vous qui êtes notre spécialiste, un petit peu technique, Guillaume.
Alors écoutez, je ne suis pas entraîneur. Ça fait, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça fait un petit bout de temps que Julien Stéphane songe à ce retour... un système à 4. Il l'a fait plusieurs fois en cours de match, hein, en fin d'année 2023.
Ouais, à Clermont notamment, quand Rennes était en supériorité numérique.
Voilà. Alors il est venu à Rennes avec l'idée en fait qu'il fallait d'abord, la priorité c'était de solidifier la défense, et que donc dans cette perspective là la défense à 3 pouvait permettre peut-être de rassurer des joueurs un peu en difficulté sur le plan individuel. Le constat c'est que non. Ça n'a pas rassuré, donc il a fait aussi le constat qu'offensivement sur l'animation collective avec le ballon c'était très insuffisant, notamment par rapport à Kelly Mwendo sur lequel il compte, que voilà, l'isolement on va dire de Kelly Mwendo n'aidait pas non plus le déploiement collectif. Donc voilà, il y a tout ça qui joue, et effectivement depuis on va dire 3 semaines, depuis que le club prépare le mercato d'hiver, c'est dans l'idée aussi d'avoir un recrutement axé sur un système avec 4 défenseurs, donc avec 4-4-2. Donc trouver un ailier, parce qu'il en manque un aujourd'hui, un attaquant de soutien pour un attaquant axial avec Kelly Mwendo, et un milieu de terrain et 2 défenseurs au moins.
Ouais, ben voilà, là on est sur 5 recrutements. Vous Christophe,
Je suis content, moi.
Non, vous en voulez que 2, vous ne voulez pas que ça bouge, mais on en parlera tout à l'heure. Mais 4-4, le 4
défenseur
derrière,
vous êtes d'accord. Moi, je suis content du retour du 4-4-2, ouais, j'aime pas trop le 3-4-3. Je trouve que, moi, l'équipe référence en 3-4-3 ou en 3-5-2, c'est Lens. Et Lens, c'est une équipe qui prend des risques. Hein. Même à 3 derrière, il ne faut pas croire que c'est un système défensif, avec des pistons qui jouent haut, et même des défenseurs axiaux, je pense à Lanceau, etc., des joueurs qui vont chercher loin, Medina, etc. Et donc Rennes, et je trouvais, comme ils n'ont pas la confiance, ben, avec ce 3-4-3, c'était encore petit bras. Donc je préfère un système où les joueurs connaissent, sont plus
à l'aise.
Plus à l'aise. Et le 4-4-2, je trouve, elle m'a donné plutôt satisfaction sur ce match d'hier.
Oui, enfin, c'est ça, ça a apporté ses fruits, Pierre.
Oui. Puis le 4-4-2, globalement, rassure quand même les équipes professionnelles. Hein. Ils attendent ça. Bon, on a le grand prêtre du 4-4-2 qu'on a connu à Rennes, c'était Gourcuff. Il ne voyait que ce schéma tactique-là. Il n'en voulait aucun autre. Il a, dans toute sa carrière, il a fait du 4-4-2 avec Lorient. Quand il est venu à Rennes, il nous a fait naturellement du 4-4-2. Mais les joueurs sont rassurés avec ce 4-4-2, beaucoup plus qu'avec des combinaisons.
Mais les joueurs, et surtout un joueur, Kelly Mwendo, il est tout de suite rassuré.
Tous les coachs disent, de toute façon, enfin tous les spécialistes disent que c'est le système le plus simple à animer, enfin le plus rationnel.
Bien sûr,
dans les positionnements et dans les relations de joueurs. C'est le plus simple à trouver, beaucoup plus que le système avec 3, qui demande beaucoup de réglages et beaucoup d'automatismes.
Et dans le monde amateur, on ne connaît quasiment que le 4-4-2.
Oui. C'est quand même bizarre quand même de leur mettre un système en place qui est difficile, je trouve, à manœuvrer aussi rapidement comme ça sans le travailler, alors que là il en a fait 10 jours pour le travailler, ce 4-4-2. Il a fait d'ailleurs une séance spéciale défenseur à un moment, donc
Le 4-4-2, oui, et puis avec un mot d'ordre, les ressorties de balles quasi systématiques, très basses, tout près du gardien. Quelquefois ça marche pas, regardez,
surtout au monde, ce qui
45 secondes, hop, voilà la relance de Marie. Et derrière,
première touche de balle
de Marie. Bon, regardez ça. Là, on en remet une. Deuxième touche, presque. Hop, voilà. Contre Guingamp, ça fonctionne. Ça prête pas trop à conséquence. Mais contre une autre équipe.
Oui, mais là, c'est de l'individuel. Là, c'est de l'individuel. C'est un
problème
individuel. Là.
Ah, ben, d'accord.
C'est pas un problème de choix stratégique collectif. C'est juste une bêtise.
Mais on fait. Regardez, là, il y a encore un peu des moments de panique. Regardez la balle, là. Derrière, des relances. On essaie de relancer propre. Voilà. Mais quand on a un peu de pressing aux 30 mètres, alors c'est Guingamp. Et Guingamp, ils ont des grosses difficultés pour finir leurs actions. Mais là, regardez, là aussi. Ça peut coûter cher.
C'est toujours compliqué parce qu'on a quand même envie de vanter les mérites, de tenter ça au moins, d'essayer de le faire, parce que ça reste quand même plaisant plutôt que de balancer des ballons devant à chaque fois, même si parfois il faut le faire, mais en effet c'est une prise de risque qui doit être assumée par tout le monde. Ça va des fois créer des actions dangereuses pour les adversaires et peut-être des buts, même parfois on l'avait vu contre Nantes par exemple.
Oui,
mais je sais que Vincent c'est une marotte pour vous. Vous préférez voir le Sarrelet dégager beaucoup plus souvent, je suis assez d'accord.
Pas systématiquement, mais plus souvent, les joueurs.
Mais toute équipe qui dégage comme ça, 7 ou 8 ballons sur 10 sont perdus. Avec Rennes, je pense encore plus, vu que vous avez Kaïmoi Dondvro, que Terrier n'est pas revenu à son niveau, voilà. C'était un peu un point de fixation Terrier. Mais bon, voilà, donc ça n'arrive pas. Mais je suis d'accord, les prises de risque, elles doivent être mesurées, surtout quand vous avez un joueur, notamment, qui n'est pas en confiance comme Omari, et qui a. Cette qualité de relance, ça c'est indéniable, mais vu comment il est au fond de la gamelle, au fond du saut en ce moment, c'est sûr que il met en danger son équipe. Donc il faut le faire un peu plus souvent de dégager.
Mais ce système-là, les relances courtes. Mais oui, exactement. Dans le foot aujourd'hui, c'est une grande mode.
Mode. Je suis d'accord. C'est une mode.
C'est effectivement toutes les équipes, même les plus petites, même des équipes peu harnachées.
Ouais, hier, Revel contre le PSG, ils font pareil.
Ils en prennent 9.
Oui, parce que c'est compliqué. Vous en pensez quoi, vous, Clément?
Je pense en effet que parfois il faut réussir à analyser sur la situation au moment donné. C'est-à-dire que parfois il faut dégager par rapport au score, par rapport au temps fort éventuellement adverse. Et parfois c'est aussi bien de prendre des risques, des sorties de balles qui vont aussi aider à sortir le ballon, garder le ballon et à remonter le terrain, comme ils ont pu le faire aussi hier les Rennes d'ailleurs.
Pierre Lecomte.
Ce qu'il y a de désolant, c'est que Mandanda, il est porté naturellement au dégage, aux balles longues. Il recherche, regardez quand il a la balle, il la ramasse dans sa surface. Regardez son regard, il cherche désespérément l'attaquant qui va se démarquer, qui va partir dans le dos de la défense adverse. Alors, il aime bien envoyer des longs ballons, des balles hautes. Mais quand vous lui mettez un Kalimuendo qui est incapable de prendre une balle haute, évidemment.
Sauf hier de la tête.
Sauf hier. Mais la balle n'était pas haute. je reviendrai là-dessus. Et il ne le fait pas. Et donc, préfère partir.
C'est une marotte et un peu une fixette. Mais il y a eu des très belles sorties de balle hier.
Oui, il faut aussi
Il y en a eu des belles.
Il faut aussi le noter. Et moi, pour ça, je défends ces sorties de balle au pied, court, et qui permettent de construire. Parce que techniquement, vous avez une équipe, si elle est un peu plus en confiance, mais peut sortir facilement. Regardez, au bout de 2-0. Alors après, ils ont un peu lâché la fin de match et c'est pas bien. Là, il y a une vraie progression à faire du côté du Stade Rennais là-dessus, gérer cette fin de match. Mais dès qu'il y a eu le 2-0, on a vu une équipe beaucoup plus en confiance et des sorties de balles à une ou deux touches de balles. On s'est pas régalé encore.
C'est de la Ligue 2 en face.
Mais une fois que vous aurez retrouvé cette petite confiance, évidemment qu'il faudra continuer à sortir de derrière, court, et ne pas se dire « Allez, dégage, dégage, dégage ».
Alors, Stéphane s'est exprimé sur ce sujet des sorties de balles parce qu'on l'a interrogé à la fin du match. Voici sa réponse.
Il y a eu quelques ballons perdus en effet dans les zones dangereuses. On a beaucoup insisté là-dessus, on a beaucoup travaillé là-dessus aussi sur les 10 derniers jours. Pour asseoir une forme de maîtrise, il faut que ça passe aussi par une bonne qualité de ressortie du ballon. On a peut-être un petit peu exagéré les 20 dernières minutes à ce niveau-là. On aurait pu alterner davantage, faire ressortir un peu plus le bloc aussi. Parce que c'est dépendant du moment du match, de la dynamique du match, de l'état de fatigue aussi. Parce que ça demande aussi beaucoup d'énergie, beaucoup de disponibilité, beaucoup de mouvement. Mais sur cette phase de jeu-là, globalement, je suis satisfait de ce que l'équipe a produit, des intentions, des mouvements et de la disponibilité. Et puis du courage aussi, parce qu'il faut du courage pour sortir le ballon de cette manière-là. Pas avoir peur, il faut se montrer et les gars l'ont bien fait.
Voilà, donc voilà ce que dit Julien Stéphan sur ce sujet. Est-ce que Rennes joue plus vite sans Matic?
Ça c'est un truc, mais pour moi, Matic il jouait pas contre Toulouse et contre Clermont. Est-ce que Rennes a joué plus vite? Pas sûr, quoi. C'était pas extraordinaire. On a envie des fois de tirer des conclusions Moi, j'ai vu des conclusions tirées sur Pontarlier-Lyon. Apparemment, c'est extraordinaire. Lyon, ça, bon, ça, c'est reparti. Paris, les remplaçants doivent jouer contre, en Ligue 1 parce qu'ils ont battu Revel. Enfin, faut arrêter, quoi.
D'accord.
C'est un truc... oui, Santa Maria, c'est un profil un peu différent. Il est peut-être dans le jeu offensif, il est peut-être plus disponible. Mais est-ce que Rennes joue mieux sans Matic? Je ne suis pas sûr.
Non, ce que ça peut changer un peu, je pense, peut-être, malgré tout, c'est la responsabilisation de Lefay. Qui sans Matic, naturellement, en fait, l'équipe est plus portée à le chercher et à le trouver. Et lui-même se sent plus investi dans la remontée de balle, dans la proposition. Alors, il l'est déjà beaucoup, hein, même avec Matic, évidemment.
Il a raison.
Mais je pense malgré tout que ça responsabilise encore plus Lefay, parce que Santa Maria, évidemment, c'est un joueur qui aimante moins de ballons que Matic.
Mais peut-être que la qualité de Santa Maria, peut-être, nous va faire une comparaison avec Matic, il chasse peut-être un peu mieux. Plus de volume de jeu, plus de courses. Voilà, je pense qu'à haute intensité, il est peut-être un plus intéressant. Donc pour chasser, effectivement, c'est plus intéressant. Mais techniquement, je suis désolé, il n'y a pas photo quand même entre les deux. Donc voilà, ça dépend ce que vous voulez vraiment.
Pierre, un avis ?
Oui, je partage aussi ce qui vient d'être dit. Bon, Lefay est en train de monter en puissance avec Rennes. Là. C'est vraiment un joueur qui est très, très agréable à regarder jouer. Hein. Il a une finesse technique, il a une vision du jeu. Moi, j'aime beaucoup ce joueur-là. L'ouverture qu'il marque pour Kalimuendo, c'est vraiment un régal. Oui. Quoi. C'est un bijou.
Bah, oui. Il va chasser dans les pieds.
Franchement, quand on aime le foot, Vincent, alors vous avez un peu... Bon,
qu'est-ce que j'ai fait encore sur, je me sens agressé.
On a eu des grands débats en fin d'année sur Lefay. Non. Globalement, Lefay, évidemment, n'a pas fait
excellent
que des bons matchs.
Hier.
Il n'a pas fait que des bons matchs, mais il a quand même été le meilleur Rennais de loin, je pense, sur la fin, on va dire, les dernières semaines de 2023, hier. Ouais. Voilà, et comme dit Pierre, franchement, quand on aime le foot, il ne fait pas tout bien, il perd des ballons aussi.
Oui.
Ok, on est d'accord, mais quand même.
Là, c'est un joueur de foot, mais on est d'accord.
C'est du plaisir.
Mais oui, qu'est-ce qu'on va me faire dire que je n'aurais pas dit. Qualification. Donc, qualification logique. Qualification sérieuse, qualification logique. Christophe, est-ce que pour autant, c'est une qualification rassurante sur l'état général de ce Stade Rennais ?
Bah, en tout cas, ça, pour moi, ça, c'est un vrai soulagement de gagner à Guingamp. Le cas contraire aurait été une catastrophe. Un gros caillou dans la chaussure. Se faire battre chez l'ennemi juré Guingamp, parce qu'historiquement, on sait ce qui s'est passé. Donc voilà, en tout cas... Moi, j'ai posé la question à Julien Stéphane à la fin du match. C'est un vrai soulagement. Vous pouvez retravailler un match par semaine tranquillement pendant le mois de janvier pour préparer aussi Milan, etc. Il dit non, c'est pas un soulagement. Moi, je pense que le président, le directeur sportif, tout le monde était soulagé de passer ce câble-là. Donc, au moins, ça, pour construire pour la suite, c'est déjà un bon point.
Au club, il savait que s'il y avait élimination, ça allait accentuer un peu la crise, le côté dramatique de la saison rennaise. Donc, je pense que oui, en effet, c'est un soulagement. Puis aussi pour un groupe qui peut fonctionner avec un match par semaine au moins en janvier. Pour garder un peu le rythme.
Alors, je vous confie la question très, très vicieuse que m'a posée Clément Gavard juste avant d'entrer dans le roudourou.
Il me pose que des questions vicieuses.
Il pose une question vicieuse. Il me dit, qu'est-ce que tu préfères te qualifier à Guingamp ou perdre à Nantes cette saison? Une question... j'ai répondu, je préfère me qualifier à Guingamp. Parce que je suis d'accord, Christophe, ça aurait été la crise encore un peu plus. Hein.
Bon. Bah, ça aurait mal fait démarrer à 2024 et Rennes a besoin de confiance, encore une fois, on en vient toujours à là. Clairement, ça suffit pas du tout pour remettre l'équipe dans le. Voilà, ce match-là va quand même aider, je pense, globalement, à aborder Nice, on va dire, dans un état relatif de sérénité.
Oui.
Relatif.
C'est la première fois de la saison, d'ailleurs, que Rennes en quitte deux victoires consécutives, non ? Clairement, alors à l'extérieur, sûrement, oui, mais.
À l'extérieur, oui.
Oui, parce qu'il n'y en avait pas eu du tout. Avant. Donc, mais c'est plutôt pas mal.
Alors,
on regarde rapidement les notes des joueurs après ce match. Dans les tops, et on va en reparler, on a Théâtre, on a Santa Maria, on a Lefay, on a Kalimuendo. Dans les flops, on a Omari, Blas, et à un degré moindre, on a Terrier, qui a du mal à revenir à son niveau. Mais je voudrais qu'on parle maintenant de Kalimuendo. Kalimuendo, homme du match, hein, non?
Il marque un doublé, hein, et vous gagnez 2-0, donc forcément.
Ouais, donc...
On se posait la question jusqu'à la 44e. Qu'a fait Kalimuendo sur ce match? Il perd des ballons, etc. Mais c'est ce qu'on demande à un avant-centre. Et moi, là-dessus, c'est pour ça qu'il est la meilleure note de l'équipe, et c'est logique. Il fait la différence, point à la ligne.
D'accord. Pierre, Pierre, c'est pas le type de joueur que intrinsèquement vous adorez.
Non, mais je reconnais qu'il a fait un bon match, un peu opportuniste.
On va revoir ses buts d'ailleurs.
Facilité par une défense un peu passive, quoi. Tenez, regardez, là, il a levé la tête, il a vu qu'il y avait du monde. Crochet du droit, crochet du gauche, tir en aveugle, centre en aveugle de Truffert, ouais. Et il déborde. Sivis, Kalimuendo déborde Sivis, il part dans son dos, c'est bien joué, il y a un beau mouvement là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on dit Truffert a déposé un ballon sur la tête de Kalimuendo. Non, il n'a pas déposé parce que... Et là par contre, c'est très adroit. Ça, c'est un but de buteur, un petit ballon.
Un petit piqué.
Piqué.
Dans la profondeur.
Une pure merveille.
Alors donc, bon. Il n'a pas déposé le ballon.
Non, parce que regardez, quand Théâtre donne la longue balle vers Truffert. Truffert, à ce moment-là, il regarde, il voit qu'il y a du monde, il voit qu'il y a trois Rennais dans la surface. C'est le seul coup d'œil qu'il est donné. Hein. Après, il a Sivis, Maxime Sivis, qui vient vers lui. Qu'est-ce qu'il fait ? Crochet du gauche, crochet du droit. Les trois, ils ont bougé, ils ont évolué, ils ne sont plus du tout dans la même situation. Il se retrouve sur son pied de prédilection, le gauche, il lève toujours pas la tête et il donne un ballon. Il donne un ballon et c'est le débordement de Kalimuendo.
Oui, c'est ça, s'adresse. C'est l'appel contre appel.
Ce que je conteste, c'est qu'on ne peut pas dire que
qu'il Truffert a déposé
oui, un ballon.
D'accord.
Comme d'habitude, il a centré en aveugle.
D'accord.
Et il y a un autre point.
Mais il y avait quelqu'un à la retombée.
Et il y a un autre point positif aussi, alors l'appel contre appel de Kalimuendo est évidemment à mettre en avant, mais il y a aussi du monde dans la surface. Moi, j'ai regardé, il y a Blas, il y a Terrier, voilà, il y a Doué, ils sont quatre, donc ça perturbe aussi les autres défenseurs. Ils savent plus trop. À un moment, ça, les deux rentrent au premier poteau et ça suit avec les supporters et ça laisse un peu plus de place. Ça change aussi par rapport à ça au 4-4-2 et le fait qu'on voit Kalimuendo à la conclusion.
Et globalement, au-delà de Kalimuendo, bon, on constate quand même que ça manque toujours un peu d'agressivité offensive, un peu de vitesse quand même, tout ça.
De danger aussi.
Voilà, Terrier, on a parlé de Terrier de Blas. Hein, c'était quand même du tout petit Blas, c'était quand même du tout petit Terrier encore une fois. Terrier, il va encore falloir du temps. Oui. C'est pas une surprise malheureusement, mais il va falloir s'y faire encore, je pense, un petit peu. Voilà, d'où l'importance, encore une fois, de recruter devant, parce qu'aujourd'hui, Rennes a besoin d'autres munitions, d'autres solutions.
Surtout avec un Gouiri blessé.
Surtout avec un Gouiri blessé.
Dont on ne sait pas d'ailleurs quelle est la nature de sa blessure.
Ça reste encore une équipe qui avance un petit peu au ralenti sur l'animation offensive.
On a demandé à Kalimuendo ce qu'il avait préféré comme but. Alors, est-ce que tu as préféré la tête ou le piqué ? On lui a parlé aussi de la suite de sa saison, et on va y revenir. Écoutez Arnaud Kalimuendo.
Ah, très difficile. Je pense que la tête, parce que j'en marque très rarement. Et j'ai bien aimé mon déplacement. Après, le but aussi avec le piqué, c'est très beau. Et franchement, les deux sont... Je sais pas. Mais je pense que le premier. Plus pour le premier.
Tu réagis aux intérêts de certaines équipes, notamment Outre-Rhin.
Je pense que c'est une bonne chose. C'est toujours, ça fait toujours plaisir de voir qu'on est demandé et que surtout une grande équipe comme... comme ça l'est. Voilà, pour l'instant, je suis là aujourd'hui. On est dimanche. Je suis un joueur du Stade Rennais. L'avenir, je ne le sais pas. Seul Dieu sait. Donc, moi, je prends le jour au jour, tout simplement.
Voilà. Donc, c'était dimanche. On était dimanche. Il était le jour du Stade Rennais. Est-ce que lundi, il l'est toujours ?
Oui, il est toujours le jour du Stade Rennais. Et puis, mardi, il le sera sûrement encore.
Parce qu'il va se passer
peut-être
quoi ?
Peut-être mercredi aussi, d'ailleurs.
Mais on ne sait pas. parce qu'il n'est pas parti en bus avec les autres.
Ah
non.
Comme plusieurs joueurs.
On a appris ça en sortant.
On a appris ça en sortant, qu'il n'était pas parti en bus avec les autres, il est parti en voiture.
Il n'était pas le seul.
Peut-être qu'il n'était pas le seul. Il n'était pas le seul. Mais alors, j'ai lu chez vous qu'il y avait...
Moi, je n'ai fait que relayer
oui.
Ce qui se disait sur...
Qu'est-ce qui se dit, alors, sur Kalimuendo ? Il va partir ?
Je ne sais pas s'il va partir. En tout cas, visiblement, Rennes a reçu une offre ferme qu'ils n'ont pas acceptée à l'heure actuelle. Mais moi, ce qui m'interroge, c'est le discours de Kalimuendo. Il dit pas, moi je veux rester au Stade Rennais, etc. On voit quand même que la porte, lui, il peut l'entrouvrir s'il le peut et s'il le veut. Maintenant, la question, c'est de savoir si Rennes va accepter de s'en séparer, parce que si Kalimuendo part, il va falloir quand même avoir une recrue derrière. Donc,
Voudrait Francfort, c'est qu'on un prêt avec une option d'achat obligatoire.
Non, c'est faux.
Bon, d'accord. Alors, c'est quoi ?
C'est faux. Il n'y a pas d'offre de prêt avec option d'achat. Il y a une offre ferme de transfert que le Stade Rennais a reçue samedi.
Et samedi, avant-hier.
Voilà, exactement. Donc avant, c'était des... Je sais pas pour l'heure. Non, mais voilà, enfin, faut être précis. Il y a une offre, parce qu'avant, il y avait des discussions orales qui se sont formalisés par une offre ferme.
23 millions
autour de... sincèrement, je n'ai pas le montant précis, c'est autour de 20 millions, a priori, qu'ils devraient refuser, que le Stade effectivement devrait refuser, comme l'a dit Clément. Voilà, aujourd'hui on en est là. Le club compte sur Kalimundo à l'instant T. Il n'y a pas, évidemment, si les enchères montent, si le club peut trouver un attaquant au moins équivalent, mais plutôt dans l'idée plus, et plus, enfin, plus fort que Kalimundo, il partira sûrement.
Il a marqué combien de buts, Kalimundo, voilà, depuis le début de la saison?
C'est son sixième but de la saison.
Cinq en championnat. Bon,
sixième but de la saison.
Plus de 20 millions, c'est quand même pas... Alors, je ne dis pas vendez Kalimundo, mais c'est quand même une offre...
On n'est pas décomptable, mais pour moi, la question, c'est de savoir si Rennes peut avoir un joueur au moins aussi fort ou au moins aussi plus fort que Kalimundo. C'est un mercato hivernal, c'est quand même compliqué de trouver des très bons attaquants. Donc, s'il part, il faut quand même savoir que Rennes doit avoir une recrue sous la main.
Mais on sent que le gars, il est pas loin de partir dans sa tête.
Il y a des discussions avancées entre lui et Francfort, ouais.
Aussi,
clairement, oui. Après, il n'y a rien de formalisé.
Un joueur qui revient en voiture et qui ne monte pas dans le car... il est déjà parti pour moi.
Non, parce que... Je veux dire que Gallon était aussi rentré en voiture, donc il n'est pas parti, lui.
Non, mais les coachs des petits pays, géographiquement parlant, les championnats belges, hollandais, etc., ça voyage en car. Mais les coachs ont un mal fou pour faire monter les joueurs dans le car. Ils veulent tous aller dans les bagnoles. Et ça crée des clans. Ça crée des clans dans le vestiaire. 2010, et c'est pas bon. Et c'est
pas bon.
Non, Sugiro.
Après, moi, je peux comprendre que Kalimundo soit atterrissé ou autant à l'écoute d'Eintracht de Francfort. Le parcours de Kalimundo à Rennes depuis qu'il est là, c'est quand même assez compliqué. L'année dernière, c'est assez peu de buts. Et là, s'il y a bien un joueur qui s'est fait critiquer et remis en question depuis le début de saison, c'est bien Kalimundo. Et ça reste un jeune joueur qui a des qualités. Il n'aurait pas fait des matchs en équipe de France Espoir, jouer au PSG un petit peu pour être un joueur qui ne vaut plus rien aujourd'hui.
Non, mais si le prix aujourd'hui est à peu près identique à celui du prix d'achat,
évidemment,
vu le parcours de Rennes,
il faut souligner quand même qu'il est courtisé, qu'il est parti, etc. Mais en tout cas, hier, il met un doublé, il fait son match, donc il triche pas. Et ça n'a jamais été un tricheur d'ailleurs.
On est d'accord. Rapidement, pour vous dire, donc dans le top encore hier, on a beaucoup parlé déjà de Lefebvre, Kalimundo, Truffert a fait son match, Théâtre fait son match aussi, les gars.
Ah oui. Très belle passe pour Truffert sur le premier but.
Oui.
Très belle ouverture.
Très belle ouverture, exactement. Oui. Alors malheureusement, 16e de finale contre un adversaire que nous ignorons à l'heure où nous mettons cette émission en boîte, ça sera sans Théâtre à cause de ce carton jaune que vous allez voir maintenant, qui est ridicule. Non, qui est ridicule. Le gars fait pas exprès.
Non, il a déjà le bras tendu.
Parce que sur cette pelouse hybride qui glissait un peu, regardez.
Ça a plaisir de mettre un jaune là-dessus, en effet.
D'autant qu'il y en a eu un autre après pour Guingamp qui n'a pas été sifflé. Donc il ne jouera pas les 16e de finale. Les flops, on en a un peu parlé. Omari, ça, c'est plus possible.
Là, il faut qu'il parte. Ouais, c'est un joueur qui n'a pas quitté encore le Stade Rennais aussi. C'est ça. Je pense qu'il faut qu'il quitte son environnement là, quitte sa zone de confort.
Et le problème qui se rajoute avec lui sur le match, notamment qu'on peut percevoir sur le match d'hier, c'est que déjà il n'est pas en confiance. Et alors en plus, il sait très bien qu'il va y avoir un défenseur qui va arriver dans ses pattes, un droitier, puisqu'il cherche un droitier pour jouer à côté. Voilà.
Parce qu'on ne peut pas se passer d'Omari pour l'instant.
Donc il le sait. Pour l'instant non. Donc il le sait très bien. Il sait très bien que pour l'instant, entre guillemets, c'est une solution d'attente avant l'arrivée de X et Y ou X ou Y. Et voilà, et donc ça aide pas non plus forcément le joueur à être super en confiance et être épanoui. Et voilà, il faut qu'il parte, comme dit Clément.
Ouais. Bah oui,
parce que... Il y a une corporelle quand même qui, je trouve, qui dégage pas de la... Voilà, c'est pas rassurant, quoi. Non. On sent pas que le joueur est dans son assiette.
Il faut au fond de la gamelle. Ça irait la tête ailleurs, ouais. Qui découvre. Enfin, moi, c'est mon avis, un autre environnement. Ouais.
Mais il fait peur à tout le monde. Je pense qu'il se fait peur. Il doit faire peur à ses coéquipiers. Alors, je parle même pas des gens qui regardent le match. Pas un problème.
Surtout
moi, mais pas que moi. Puisqu'on parle de d'attitude sur le terrain, vous c'est Blas. Ça vous énerve de plus en plus.
Oui. Alors j'étais très content qu'il ait signé à Rennes. Je trouve que c'est un joueur qui est décisif, etc. Son attitude, moi, me commence à m'insupporter. Je vais pas le prendre en grippe, mais pas loin, parce que c'est le joueur qui fait pas les efforts, qui alors par rapport à Terrier qui est pas encore revenu, mais Terrier on a l'impression qu'il fait quand même des efforts, alors que lui il se cache Voilà, je suis désolé. Le petit Désiré Doué que j'ai critiqué aussi, il fait des erreurs, il loupe des trucs, mais il se cache pas. Alors que Ludovic Blas, ce que je lui reproche, c'est de se cacher et que, vu son niveau, son expérience, on doit le voir beaucoup plus souvent que ça. Qu'on le voit là.
Pierre, messieurs, réaction. Ouais, ouais. Vous êtes d'accord.
Oui, oui, oui.
Alors que vous savez que Julien Stéphan y croit beaucoup. Il nous l'a dit encore hier en conférence de presse. Il nous a dit, moi, je le vois à l'entraînement. Je suis persuadé qu'il va faire une très bonne deuxième partie de saison. Il y a des signes qui ne trompent pas. Alors, mais on les voit pas. Hein. On les voit. C'est des signes d'entraînement. Hein. Pour l'instant, on voit pas.
Non, non. Il fait un bon retour défensif en première période à un moment. En fait, c'est pas intermittent. C'est comme c'est le joueur qu'on a connu aussi, je crois, à Nantes. Même si je suis à tous les matchs de Nantes, mais voilà. Et puis c'est un joueur qui est pas encore assez décisif, à mon sens, pas assez dangereux. Alors qu'en début de saison, il tirait beaucoup, je trouve. Il tentait beaucoup sa chance.
Il revenait, il tirait. Ouais,
il tirait. Ouais, alors que là, bon, on voit pas trop. On n'est pas dangereux. Il fait pas peur, surtout aux défenses adverses, je trouve.
Et lui aussi, on va lui mettre un concurrent dans les pattes.
Il était un peu en dehors des circuits sur le match hier, je trouvais. Hein. C'était un peu isolé sur son côté, là. Pas beaucoup trouvé, pas beaucoup cherché, pas beaucoup.
Il a pas beaucoup demandé non plus. Il a râlé quand ça arrivait pas.
C'est beaucoup passé à gauche aussi.
C'est beaucoup passé à gauche, effectivement. Ouais. Voilà, donc oui, il va y avoir probablement. Alors, il cherche plutôt un gaucher, hein, je crois, hein, sur les côtés.
On va voir. Et avant de parler des joueurs susceptibles d'arriver, les joueurs qui seraient capables de partir. Premier cas, celui de Matic, il faut régler ce cas-là. J'ai du mal à comprendre ce qui se passe avec Matic. Vous allez peut-être pouvoir m'éclairer. Je ne sais pas.
Bah, c'est bloqué, Guillaume. Pour l'instant, en tout cas.
C'est bloqué ? C'est bloqué quoi ? C'est bloqué, il est rennais.
Il est rennais, oui, il est rennais.
Lundi,
il est rennais. On en a parlé, on a évoqué dans le journal ce dossier depuis la fin de... La fin d'année 2023, ça n'a pas changé. Aujourd'hui, il souhaiterait plutôt quitter le Stade Rennais. Donc voilà, il était absent à Clermont, absent à Guingamp pour officiellement un mollet un peu mystérieux. Même s'il y a apparemment une petite chose, mais bon, bref. En tous les cas, la situation fait qu'aujourd'hui, ouais, ça semble compliqué entre le Stade Rennais et Nemanja Matic pour que l'histoire continue.
Ouais, mais... Il a un contrat, ce gars-là. Il ne peut pas partir. C'est quoi cette histoire ? Qu'est-ce qui se passe ? Il n'est pas au bagne ?
Non. Oui. Non, mais après c'est Matic, hein. Je pense que quand Matic demande de partir, alors évidemment il y a son contrat, il doit le respecter, mais je pense que forcément le club est à l'écoute, hein, si le joueur veut à tout prix partir. Moi je sais qu'il y a des problèmes, effectivement on a parlé de problèmes d'ordre privé avec ses enfants qui n'ont pas trouvé d'école internationale. Bon, on sait très bien qu'il n'y a pas d'école internationale à la Rennes, enfin, mais je sais aussi qu'il y a des problèmes en interne. Je veux dire, voilà, ça ne colle pas forcément à l'intérieur du club aussi. Donc, il y a des reproches à faire au club. Donc voilà, son cas est particulier.
Le coup de l'amende, quand il arrive en retard, je pense que ça n'a pas dû être bien pris.
Je pense qu'il y a une vraie déception de son côté qui fait qu'il a. On arrive à ce point-là d'une demande de départ.
Il y a beaucoup de choses dans le dossier. Ouais. Je pense quand un joueur n'est pas bien ou mal intégré, ou qu'il se sent mal intégré globalement,
sa
lui-même
famille aussi,
et familialement,
pas que lui,
c'est compliqué. Alors oui, effectivement, vous pouvez avoir un très bon salaire. C'est le cas de Matic. Et d'ailleurs, c'est un des problèmes pour le faire sortir parce que forcément, il n'y a pas 40 candidats pour accueillir l'élément de Matic vu les conditions salariales de Matic et puis le transfert en plus à payer à Rennes. Donc il n'y a pas 40 possibilités. Voilà, aujourd'hui il est à Rennes. Demain.
Oui, s'il y a une promesse qui n'a pas été tenue par le Stade Rennais, c'est d'avoir une équipe qui joue le podium. Voilà, c'est juste ça pour moi. Matic, il est entouré de conseillers, donc il sait en arrivant à Rennes que Rennes, c'est pas Londres, c'est pas Rome. Voilà,
c'est pas loin, mais.
Ouais, c'est pas loin, mais on sait que Rennes, c'est une petite ville à cette échelle de ces villes-là. Donc c'est un problème sportif aussi. Je pense que si Rennes était deuxième, je suis pas sûr qu'il y aura un dossier Matic. Je suis pas certain. Ouais. Je pense qu'il est aussi déçu sportivement par ce que fait le Stade Rennais et sa famille, évidemment, qui est peut-être bien ici.
Il y a un décalage générationnel aussi, je pense, qui existe entre lui, en tout cas, il le sent comme ça, un décalage générationnel entre lui, ce qu'il attend du foot, comment il le voit, comment il vit le foot et comment, globalement, le vestiaire le vit.
C'est très compliqué, quand même.
Il y a beaucoup de choses. Hein.
Parce qu'on a bâti une équipe, quand même, un peu avec Matic, quoi. Et si,
Puis en plus,
c'est un symbole. Imaginez qu'il parte. C'est un flop pour le Stade Rennais.
C'est un symbole, et puis en plus, s'il part, c'est un dossier en plus dans le mercato. C'est déjà compliqué de trouver un défenseur, de trouver un attaquant. S'il faut trouver un milieu de terrain en plus, ça va être compliqué. C'est un mercato hivernal, c'est pas un mercato.
Et pour l'instant, ce mercato dit d'ajustement pour Florian Maurice, de bouleversement pour d'autres, il n'a pas avancé. C'est marrant, hein. Ça avance un peu partout, sauf à Rennes.
Ouais, c'est pas tout à fait vrai quand même. Ça,
Regardez, Tino Kadewere, il arrive à Nantes.
Oui,
paf,
mais sur
deux
des
buts.
Prêts, sur des prêts, Vincent. Sur des prêts. Attention, il y a très très peu de transferts qui se font. Aujourd'hui, à Rennes, on parle de transferts, surtout, et pas de prêts. Ouais. Il y a des choses différentes. Le mercato d'hiver, effectivement, on sait très bien comment ça se passe. Vous avez tous l'expérience de la chose. On l'a tous. On sait très bien que vous le vouliez ou non, tout se décante dans les 5 derniers jours. Oui. 3, 4, 1, voire même dans les dernières heures, ouais, 20 dernières minutes. C'est comme ça.
Ça dure jusqu'à quand? 1er février.
Oui,
ouais. Vous avez le temps de perdre des matchs. Hein. Ouais, mais d'en gagner aussi, mais d'en perdre. Hein.
Après, je pense que le match, que la victoire à Clermont a quand même changé un peu, a donné un peu de patience aussi aux dirigeants. Ils vont pas prendre des joueurs pour 6 mois. C'est aussi quand on prend des joueurs, c'est peut-être pour aussi plus de moyen terme au moins, pour quelques années. Donc, si on prend des joueurs pour 4 mois et derrière se dire, bon, on en fait quoi en juin, en juillet, ça sert à rien. Donc, je peux comprendre aussi la patience et le fait de faire les bons choix au bon moment de la part du Stade Rennais. Maintenant, en effet, ça va dépendre.
Mais il y a quand même un contexte compliqué de
ça dire a l'air toujours compliqué. Les dossiers, c'est toujours compliqué.
Non, mais il faut aller chercher une place européenne. Donc, il faut miser sur des joueurs, peut-être sur 2, 3, 4 ans, sachant que l'entraîneur sera peut-être plus le même la saison prochaine s'il a raté ses objectifs. Bah, tout ça, il faut prendre en compte. Et donc, c'est un truc assez global. Et pour ça que je dis que c'est complexe. Après, faire des joueurs, oui, forcément, c'est complexe. Mais le contexte aussi du club est compliqué.
Il y a ça, mais il y a quand même une chose. Il y a des dossiers qui sont avancés. Il y a des choses qui sont clairement avancées. Ouais, après, il faut aussi que les dirigeants, dans leur ensemble, tranchent. Au bout d'un moment, on
peut dire qu'il y a des voix discordantes au sein du club.
On peut pas non plus tergiverser. Bah, des hésitations, peut-être. Voix discordantes, j'irai pas jusque-là. Enfin, peut-être sur certains dossiers, oui, je pense que c'est le cas. Après, globalement, il faut aussi trancher et se dire, voilà, là, on fait comme ça, là, on y va.
Ouais.
Là, on se lance. Au bout d'un moment, c'est vrai qu'on peut pas... voilà.
Et comme en plus, il y a la fameuse prime Pinot qui fait que tous les transferts sont beaucoup plus chers. Je vois des gens, moi, même des gros clubs, qui prennent des joueurs à 2-3 millions d'euros. Ils n'arrivent jamais.
Et puis bon. Seydou, c'est cher. Par
alors, Seydou, c'est un des dossiers avancés. Alidou Seydou, qui est un défenseur, on va voir quelques images de lui, de Clermont. Hein, voilà, c'est un joueur de petite taille, mais alors très vif.
1m73.
Voilà. Vous avez déjà toutes ces coordonnées, Pierre.
Oui, la taille pour moi, pour les défenseurs, c'est quelque chose qu'on
oui, mais alors il est petit, donc ça vous gêne.
Non, pas pour un latéral.
D'accord.
Mais il peut jouer dans l'axe.
Il joue plus dans l'axe. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire parce que...
C'est un dossier qu'on avait révélé quand même.
Oui, voilà, ça fait longtemps que West France.
Comme celui de Maripane, hein, qui sont deux dossiers bien avancés pour le Stade Rennais. En tout cas, deux dossiers toujours en cours. Oui, mais Alidou Seydou, effectivement, c'est une piste très, très sérieuse. Il y a des négociations avancées entre les deux clubs. Il y aurait aussi un accord entre le joueur et le Stade Rennais. Donc voilà.
Là, il est à la CAN.
Là, il est à la CAN. Et
le Ghana.
Mais c'est un dossier qui est probable.
D'accord.
C'est un joueur que j'aurais aimé voir arriver l'été dernier. Je trouve que c'est un joueur qui aurait pu. C'est un bon joueur, hein. C'est un bon joueur de Clermont. Alors en effet, Clermont, ils sont derniers de Ligue 1, mais c'est un bon défenseur.
Et puis on se souvient, Grain a fait venir un Naïef Aguerd de Dijon où ça n'allait pas très bien. Et où il s'est bien plu. D'autant que Clermont voudrait Jacquet. Non, mais alors je ne sais pas si ça peut aider dans le deal. Mais c'est pas.
Ça a été évoqué, mais jusqu'à la fin de semaine dernière, il n'y avait pas de contact direct entre Clermont et Rennes sur Jacquet.
D'accord.
Ça a peut-être changé depuis.
C'est Idou, vous êtes tous partants?
Oui, moi je bien aussi.
Mais... On peut jouer aux deux postes, hein, surtout, c'est très intéressant.
Oui, mais enfin, il est à la CAN.
Mais la CAN, c'est 3 semaines, tout le monde ne va pas aller en finale de la CAN non plus.
Si se fait éliminer en 8e de finale, par exemple, avec le Ghana, il revient pour Lyon, hein, donc ça va vite. Hein. Parce que la CAN doit être. En effet, il ne faut pas prendre 3 jours à la CAN, évidemment, mais s'il y a un joueur et qu'ils estiment que.
C'est vrai qu'il y a moins d'urgence depuis la victoire à Clermont. Clairement.
Voilà, on verra après Nice, peut-être que bon.
Moi, je ne le mettrai pas en défense centrale. Hein. Je persiste et signe. Trop petit gabarit pour être en défense centrale dans le football moderne actuellement. Il faut des. En dessous d'1m80, je ne prends pas.
D'accord. Ok, ben on le fera.
Je pense que l'idée du latéral droit, voilà, mettre une vraie concurrence à Assignon côté droit, sachant que sur le poste de centrale, il y a d'autres pistes.
Maripane, justement.
Oui, Maripane, c'est une.
Alors, qui voulait pas venir, qui veut bien venir maintenant.
Oui, faut se méfier avec ce genre de choses. Ouais.
Un Chilien.
Il y a beaucoup de choses qui circulent. Encore une fois, on n'a pas la vérité absolue. Moi, j'ai pas la vérité absolue.
D'accord.
Après, on vérifie les informations, on essaye quand même de croiser les sources. C'est quand même le principe de notre métier. Il y a beaucoup de choses qui circulent sur les réseaux sociaux. Il y a à boire et à manger.
Vous avez raison.
Autour de il y a à boire et à manger. En plus, il y a beaucoup de. Voilà. On sait que c'est un club qui est acheteur, c'est un club qui est aussi peut-être vendeur. Donc, il y a beaucoup de rumeurs qui parfois faut
faire attention. Mais Maripane, c'est une vraie piste. Après, encore une fois, il faut que le Stade Rennais tranche aussi.
C'est central de métier.
Oui.
À 47 sélections avec le Chili, vous êtes forcément un défenseur de métier. Hein. C'est
titulaire hier.
Il était titulaire ouais, hier avec la victoire de Monaco à Lens. Alors quand il est arrivé, je me souviens, il était
blessé.
Il était blessé.
C'est un joueur. C'est un joueur qui malheureusement dans sa carrière a eu quand même pas mal de petites blessures. Hein. Il n'a pas eu les croisés, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais il a eu une entorse par-ci, des élongations par-là, parce qu'il est assez filiforme. Il est grand, il fait 1m93. Vous allez dire, je fais une fixation sur la taille. Il fait 1m93, mais il ne fait que 81-82 kilos. Ça veut dire que c'est un joueur qui n'a pas des cuisses à la Kalimuendo. Hein, vous voyez,
c'est un joueur qui est,
et donc il est pour un défenseur central, il est un petit peu fragile de ce côté-là.
Mais c'est au début, il était maladroit. Je me souviens de ses débuts à Monaco. On espérait tous qu'il allait jouer quand Rennes jouait à Monaco, parce qu'il était et il s'est nettement amélioré.
Mais à un transfert, il y a les accords avec les joueurs, qui sont une chose, qui sont souvent assez faciles à trouver, surtout avec Rennes. En général, c'est assez simple. En revanche, évidemment, après, il y a les clubs. Un transfert, il faut l'accord des clubs. Et oui, il y a la CAN. Oui, le mercato dure 3 semaines. Oui, il faut des remplaçants. Oui, Brassier n'est pas à Monaco.
Voilà, parce que si Brassier n'est pas à Monaco, Monaco ne veut pas lâcher Maripan.
C'est pas aussi simple que ça.
Non, mais.
Franchement, c'est pas aussi simple que ça.
Ça, c'est ma fête aujourd'hui.
Je pense que c'est pas. Je pense que c'est, sur le dossier, c'est un peu plus. Voilà, je ne suis pas sûr que Maripan soit un premier choix à Monaco dans l'esprit d'Adi Hütter. Bon. J'en suis pas sûr.
Et après, il y a
quel que soit le dossier Brassier.
Moi, j'aime bien ce choix-là parce que, pour moi, il faut de l'expérience au cœur de cette défense. Et deux, j'aime bien les Sud-Américains.
Ok, c'est votre côté Brésil.
Pas Brésilien.
Ah non.
Argentin, Chilien, Uruguayen. Voilà, des chiens, comme on dit sur le terrain, qui sont truqueurs et qui sont accrocheurs.
Il
manque de vis un peu dans cette défense.
Je vous dis le Brésil parce qu'on a entendu un autre nom là, qui circulait, là. Vanderlaan.
C'est faux.
C'est dommage, j'ai cherché des images de Vanderlaan. qui est un gars qui vient de Palmeiras.
Oui,
qui est un latéral gauche,
Il a un nom hollandais, mais c'est pas hollandais.
Non, c'est pas.
Il y a beaucoup de choses. Hein. Ekitike, pareil, a été cité, c'est faux. Il n'y a pas de piste Ekitike. Bref.
Ouais, parce qu'il manque encore un milieu de terrain, il manque des attaquants.
Et puis cet après-midi, vous aurez encore une
donnez-moi
piste.
Donnez-moi des noms.
Et puis demain. Mais après, il y a des pistes qui sont.
Mais moi, j'aime bien ça.
Il y a des pistes qui sont vraies dans la liste des
centraux. C'est comme un gosse, j'aime bien le mercato.
Le polonais de Southampton, Bednarek, c'est une bonne piste.
Bednarek. Jan Bednarek.
Et c'est pas une piste prioritaire.
C'est un défenseur central. C'est lui, là.
Southampton.
Voilà, il joue à Southampton. C'est lui.
Souleymana. Il joue pas.
Voilà, et ben il marque des buts même. Et ça fait très longtemps qu'il est à Southampton. Il est arrivé en 2017 à Southampton, Bednarek.
Je pense à Souleymana là, qui avait hésité longtemps à partir à Southampton. Peut-être des regrets aujourd'hui. Hein, il aurait fait du bien dans le profil.
En défense centrale, Bednarek.
Et là, il s'enterre à Southampton.
On parle de Bednarek, on parle de Maripan. En défense centrale, il y en a d'autres sur la liste. Pas forcément, qui sont au moins aussi bien placés. À l'étranger, je crois qu'il y a au moins 2 joueurs dans un autre pays étranger que l'Angleterre. Ils sont également sur les listes, voilà. Il y a des joueurs qu'ils ont essayé de faire aussi qu'ils n'ont pas pu faire.
Ils gardent ces infos, il a raison.
Non, mais il y a des choses. On peut pas donner tous les noms parce que forcément, vous connaissez bien la chose. On peut pas toujours dire les noms. Il y a même des dossiers qui n'ont pas pu se faire que certains auraient bien aimé faire en défense centrale, un défenseur en France. Voilà. Bon, bref.
J'ai mangé le nom de notre ancien ailier polonais.
Grosicki.
Voilà, Grosicki. Parce que souvent, les joueurs acceptent de venir dans certains clubs parce qu'ils en entendent parler par un compatriote.
Oui.
Et Bednarek peut aussi avoir entendu parler du
Stade Rennais. Oui, ils ont joué ensemble avec Camille Grosicki.
Le dernier point, on s'étonne de voir que le mercato d'hiver n'est décisif que sur les derniers jours, voire les dernières heures. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une ronde infernale des agents auprès des familles pour essayer... C'est normal, au passage, de gratter le maximum d'argent. Et évidemment, les négociations, c'est pas toujours entre les clubs, les joueurs, la famille.
Ah non, il y a des intermédiaires. Surtout avec les Sud-Américains.
Oui, et les agents sont peut-être à citer en premier. Parce que c'est eux qui font le bal des mercato. Hein. C'est les agents. Hein.
Il nous reste 1:30. Je suis sûr que d'abord, la semaine prochaine, on saura, nous, contre qui Rennes joue en Coupe de France. Il y aura eu des recrues. Non. Dans une semaine, quand même. Vous me faites peur, Guillaume. Ils vont tous arriver le dernier jour.
Évidemment qu'il y en aura au dernier jour.
Il y aura des recrues fin janvier, oui.
Il y aura eu des recrues fin janvier. Il y a Nice qui arrive samedi.
Sans Todibo. Sans Boga aussi, mais avec Chaud.
Avec Mohamed Ali Chaud qui nous avait fait du mal à Angers il y a 2 ans. non, l'année dernière,
début il y a deux ans, je crois.
Il y a deux ans. Et qui était parti se perdre à la Real Sociedad. Juste comme ça, parce qu'il nous reste 45 secondes, je vais vous demander, on va regarder le tableau des pronostics juste comme ça, si la réalisation veut bien nous le montrer, pour montrer confirmation que Thomas Rasouli est en tête du classement des pronos, que Laurent Frétinier n'est pas loin, Julien Bouguera aussi. C'est plus compliqué, Guillaume, même si vous avez marqué un point, mais...
Toujours en bas, moi.
Ouais, vous êtes en bas, bah
j'ai
oui,
pris
Christophe.
Points
hier. Eh ben oui, vous aviez 9, vous avez 11 maintenant.
J'avais le bon prono, moi, pour
Non, non, bah non, non, j'avais pas le bon prono. Seul Thomas Rasouli avait le bon prono. Est-ce que vous allez avoir... Non, non, est-ce que vous allez avoir très vite le bon prono pour Nice? Allez!
Deux recrues.
Hein? Deux recrues. Vite, vite, vite. 1-0 pour Rennes. Guillaume, je dis la même chose que vous.
1-0 pour Rennes.
1-0 pour Rennes, on est trois à dire la même chose. Pierre, 2-1 pour Rennes, c'est un grand classique. Clément,
un partout.
Un partout, évidemment. On sera là la semaine prochaine pour parler de la Coupe de France, pour parler de Nice, pour parler du Mercato. Merci d'avoir été avec nous. Encore une fois, très bonne année à tous. Et bien sûr, allez Rennes.
D'envoi de votre programme avec Pascal Menuiserie, fenêtres, portes et volets dans vos salles d'exposition à Rennes et Vitré.
Pigeot Immobilier, la française immobilière, Habitant, Rennes Parc Expo, le groupe Pigeot, des métiers multiples, un acteur unique. Le groupe Pigeot, partenaire officiel des Rouges et Noirs.